Alors, nous continuons nos études, nos petites méditations, notre série de prédications sur le thème des 10 commandements. Vous avez la liste rénovée, on a fait une nouvelle pancarte, un nouveau panneau en dessous de la chaire. Alors, avant d'aborder le commandement d'aujourd'hui sur l'adultère, tu ne commettras pas d'adultère, il est bon de dire que c'est vraiment un sujet qui est l'objet de beaucoup de commentaires dans notre société. L'adultère est le sujet d'innombrables romans, d'innombrables pièces de théâtre, d'innombrables films, d'innombrables chansons, d'innombrables blagues. Il paraît que la moitié des blagues dans Télé Z, c'est sur l'adultère. Ce n'est pas moi qui les ai lues. En tout cas, l'adultère a été progressivement dédramatisé. Et l'adultère constitue quand même, aujourd'hui encore, pour ceux qui sont victimes de l'adultère, un drame terrible. Puisque si l'amour est sans doute ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine, il n'est pas étonnant que l'amour qui est trahi, que l'amour trompeur, soit le thème de... soit encore aujourd'hui l'objet de drames terribles et de problèmes terribles. Alors, c'est donc, nous sommes, si nous parlons de cela, c'est bien parce que nous poursuivons, nous parcourons les 10 commandements. Et que l'infidélité est visée par le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, je vais relire en Exode 20, les premiers commandements. Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez sous la chair, c'est une version abrégée. Alors, le peuple des Hébreux donc, se trouve au mont Sinaï. Il a été délivré du pays d'Égypte, de la servitude, pour marcher maintenant en liberté. Dieu lui a fait grâce. Il va répondre à la grâce de Dieu. Et Dieu lui montre le chemin par lequel il peut répondre à cette grâce. Et donc ce peuple de Dieu reçoit de la main même de Dieu ses commandements. Je suis, Exode 22 à 14, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du repos et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, les 10 commandements ne visent pas, et c'est bon de le rappeler chaque fois, les 10 commandements ne visent pas à enfermer les gens dans une sorte d'esclavage. Les 10 commandements sont les signes de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils ont été donnés à un peuple qui venait de retrouver sa liberté, dans tous les sens. Et donc, obéir aux 10 commandements, c'est pas avoir une vie amoindrie, c'est vivre pleinement. Obéir aux 10 commandements, c'est vivre pleinement. Je commence donc par dire que le « tu ne commettras pas d'adultère » n'est pas une atteinte à la liberté. C'est une parole qui libère de beaucoup de choses, qui libère du mensonge, qui libère de l'insécurité, qui libère de la trahison. C'est une parole destinée à favoriser l'amour, à tout point de vue. Alors, on parle d'infidélité et d'adultère. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est la même chose? Et infidèle, celui ou celle qui ne respecte pas ses engagements, les engagements qui ont été pris, et qui trompe plutôt la confiance de l'autre, et particulièrement qui n'est pas constant en amour. L'adultère, c'est le fait pour une personne mariée d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Donc, l'adultère, c'est une forme particulièrement grave de l'infidélité, qui est plus large. Et il faut savoir que le Seigneur Jésus a mis l'infidélité des yeux sur le même plan que l'infidélité des corps. On va revenir là-dessus, mais il y a le verset de Matthieu 5, 27, 28, hein, qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Alors, à en croire les producteurs de séries télé, hein, que vous regardez d'un œil, hein, bien sûr, à en croire les producteurs de séries télé, ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère, n'a pas de sens aujourd'hui. Hein. Et on montre plein d'adultères, hein, dans toutes les séries télé que nous regardons, hein, que l'on regarde. Hein. Et alors, pour eux, ça n'a pas de sens, parce que tout le monde est à la recherche de son propre bonheur, hein, peu importe si ça ne fait pas le bonheur de l'autre. Tout le monde marche en fonction de ses propres intérêts, de ses propres désirs du moment. Tant que l'autre m'apporte du bonheur et du plaisir, ben je suis fidèle. Hein. Et si je ne trouve plus le bonheur, avec cette personne, eh bien je vais chercher le bonheur ailleurs. Je change, hein, comme je change de restaurant, hein, si c'est pas assez cuit, comme je change de chemise, si elle n'est pas assez propre, etc. Les personnages des séries télé aspirent sans doute, certains d'entre eux, hein, à des relations qui durent. Hein. Mais ils sont inévitablement déçus dans ces séries. C'est comme ça qu'on nous le présente. Hein. Et nous, en les regardant, eh ben, on va se délecter de leur souffrance. Hein. Et à la télé, comme dans la vie, on peut dire qu'il y a une énorme contradiction entre ce que les gens recherchent, la fidélité, l'amour, et ce qu'ils font réellement. Alors, la première chose qu'on peut dire pour avancer, c'est que l'union conjugale dans la Bible est une relation exclusive. Dans certaines cultures, l'homme est considéré comme un jardinier et la femme comme un jardin. Cette image se trouve en partie dans la Bible. C'est dans le Cantique des Cantiques. On ne va pas le relire ce matin. Mais on va dire, contrairement à la Bible, on dit dans certaines cultures qu'un homme peut avoir plusieurs jardins. Il peut semer à droite et à gauche, hein, c'est normal. Hein. Ici ou là, il récolte du fruit, hein, donc il faut qu'il sème un peu partout pour avoir un peu de fruit. Hein. Alors, ce n'est pas ce que dit la Bible. Hein. Je crois que je vous apprends pas une nouvelle. Hein. Le Cantique des Cantiques parle d'un amour exclusif. Hein. Et toute la Bible en dit autant. Hein. Et d'ailleurs, le Cantique des Cantiques, c'est une illustration de Genèse 2. Hein. Et en Genèse 1 et 2, Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, hein, et les deux ne feront plus qu'un. Hein, » pas le ménage à trois ou à quatre, là. Hein, c'est vraiment « les deux ne feront plus qu'un, qu'une seule chair, qu'une seule unité à tout point de vue. Hein, » et il s'attachera à sa femme. Hein, pas à ses femmes. Hein, il s'attachera. C'est un terme très fort. Il s'attachera durablement, ça veut dire. Il s'attachera fidèlement. Il s'attachera exclusivement. Il s'attachera amoureusement. Alors, cet attachement est d'autant plus important que d'une manière étrange, les humains vont voir Dieu à travers le couple. Le mariage est l'image de Dieu, comme dit le point suivant. Au commencement, il est dit que Dieu créa l'être humain à son image. Il les créa homme et femme, l'être humain à son image. Alors qu'est-ce que dans l'être humain est à l'image de Dieu, hein, ça a posé beaucoup de questions, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Alors ce n'est pas le fait d'avoir deux pieds, hein, deux oreilles, un grand nez au milieu de la figure, je parle de moi bien sûr. Ce n'est pas ça qui nous fait l'image de Dieu. Hein. Dieu est esprit, dit la Bible. Un esprit n'a ni corps ni os, hein, dit la Bible aussi. Alors, ce qui, dans l'être humain, ressemble un peu à Dieu, hein, on va dire, pour faire bref, c'est sa capacité de créer, sa capacité d'aimer. Hein. Et là, il y a plusieurs choses dans la famille qui reflètent cela. Hein. La relation parent-enfant, par exemple, peut ressembler à notre relation avec Dieu. La fidélité dans la relation entre un mari et une femme peut ressembler à la fidélité de Dieu également. L'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour des parents, l'amour d'un mari, l'amour d'une femme peut ressembler à l'amour de Dieu. Et donc si ces choses sont altérées, si ces choses sont abîmées, sur le plan humain, sur le plan des relations, ces choses nous renverront une image brouillée, une image abîmée, une image altérée de Dieu. Et donc quand Dieu dit « tu ne commettras pas d'adultère », et en rappelant et en reprenant ce commandement, eh bien, nous défendons ainsi l'image de Dieu en nous. Et on voit l'importance de ce commandement. Alors, nous dénonçons en même temps, non pas un péché, mais plusieurs. En dénonçant l'adultère, nous dénonçons toute une série de péchés. L'adultère a une portée sociale. Et on peut parler de la portée sociale de l'adultère. Nous dénonçons toute une série de péchés. Quels sont ces péchés? Eh bien, les promesses non tenues. Quand il y a adultère, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des mensonges aussi, forcément. Il y a des mensonges avant, pendant, après. Il y a le mépris de l'autre. Il y a le mépris de l'autre. Il y a l'hypocrisie, forcément. Il y a l'égoïsme, une vie centrée sur soi, sur ses désirs, sur ses besoins du moment. Il y a la lâcheté. Il y a la traîtrise, la trahison. Il y a toutes sortes de mensonges sur les finances aussi, parce que ça s'accompagne de ça. Il y a la blessure infligée aux enfants. Il y a, bien sûr, l'auto-justification. On s'auto-justifie et puis on va justifier ce que les autres ont fait de même que nous. L'auto-justification qui justifie les autres quand ils en font autant. Ça aussi, c'est un dégât extraordinaire. Puis il y a la propagande en faveur du mal. Nous savons bien que le mal, quand il est fait, eh bien, d'autres personnes vont être incitées à le faire. En suivant notre exemple ou en suivant nos allégations, nos justifications. Alors on entend dire souvent, et ça c'est pas nouveau, on entend dire « ne vous occupez pas de la vie privée des gens ». On dit ça de l'Église, on dit ça des pasteurs, on dit ça des chrétiens. « Ne vous occupez pas de la vie privée des gens, c'est ma vie, ça me regarde, ce que je fais de mon corps ne regarde que moi ». Mais Dieu s'occupe de la vie privée des gens. Le mariage et donc l'adultère n'est pas seulement une question de vie privée. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de deux déjà. Et en cas d'adultère, il y a le conjoint, il y a un conjoint, peut-être même deux qui sont trompés, et il y a des enfants. Il y a des questions en rapport avec les beaux-parents, ça a des répercussions sur les beaux-parents, sur les grands-parents. Et nous savons aussi qu'il y a parfois des relations au sein d'une seule et même école. Ça fait des problèmes dans les écoles, bien sûr, quand il y a deux parents qui avec le problème dont nous venons de parler. Et ça fait des problèmes dans les églises, forcément, du même genre, ou dans l'entreprise, etc. L'adultère est un problème de société. Il a une portée sociale. En l'interdisant, Dieu défend les plus faibles. Il donne au couple... Et il défend les enfants, qui ont besoin, entre autres, d'amour, de stabilité. En l'interdisant, Dieu donne au couple aussi un cadre qui le portera dans la maladie et la vieillesse et la mort. Là aussi, il défend les plus faibles en faisant ça. Et puis, Dieu défend aussi la cohésion sociale. Il défend les plus faibles en défendant la cohésion d'une société. Notre société, toute société est fragile, fragilisée par la vie centrée sur eux-mêmes de beaucoup de gens. Et chacun fait selon ce qu'il veut, c'est un peu l'anarchie. Et le mariage tient la société. Elle tient la société, c'est un des piliers de la société. Et donc, en interdisant, et quand il n'y a plus de société, quand c'est l'anarchie, eh bien, c'est toujours les plus faibles qui payent. Donc, en défendant la portée, la cohésion sociale, Dieu défend les plus faibles. Donc, le septième commandement interdit l'adultère, on peut ajouter. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire qu'il suppose, en faisant ça, il suppose le mariage comme le plan de Dieu pour l'homme et pour la femme. Et c'est comme s'il disait, donc, un homme, une femme, pour la vie. C'est ça que ça veut dire. Tu ne commettras pas d'adultère. Et du coup, eh bien, le septième commandement justifie qu'on parle de tout ce qui ne respecte pas le plan de Dieu. Un homme, une femme, pour la vie. Qu'est-ce qui ne respecte pas ce plan de Dieu? Ben, la polygamie. La polygamie ne respecte pas ce plan de Dieu. Le divorce pour convenance personnelle, non plus. L'homosexualité, la violence conjugale, sous quelque forme que ce soit, ne respecte pas non plus le plan de Dieu. La valse des partenaires multiples, non plus. Et beaucoup de choses dont il ne faut même pas parler. Et il y a plein de choses derrière ce septième commandement. Alors, on peut ajouter aussi que tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, on pourrait ajouter que tout le monde ne se sent pas concerné. Il y a certainement ici beaucoup de gens qui ne se disent pas concernés par ce commandement. Oh, mais ça concerne les gens mariés. Ça ne concerne pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Comme tous les commandements de Dieu. Et tout le monde est concerné par tous les commandements de Dieu, celui-là également. Alors, reprenons certaines catégories. Les célibataires. Ah, ils se disent, oh, je ne suis pas concerné, je peux regarder ailleurs. Non, les célibataires sont concernés eux aussi. Vous êtes concernés si vous êtes célibataire, parce que vous vous marierez peut-être un jour. Vous éprouverez peut-être un jour une attirance, comme on dit aujourd'hui, pour un homme ou une femme mariée. Et vous serez tenté de briser un bon ménage, un ménage. Aujourd'hui aussi, on peut dire que vous êtes concerné parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des gens en buvant le café, etc., dans l'entreprise, vous rencontrez des amis, des collègues, et puis c'est un des sujets de conversation. Donc, vous êtes concerné parce que vous avez un témoignage à rendre à ce sujet. Il faut que vous ayez des idées claires là-dessus, une position, vous sachiez où vous en êtes pour pouvoir au moins avoir un dialogue. Vous êtes concerné. Les victimes de l'adultère sont concernées, évidemment. Ceux qui sont trahis, ceux qui ont été blessés par ce genre de choses. Vous êtes concerné au plus profond de votre chair, de votre âme. Vous aimeriez sauver votre mariage. Ou si vous êtes divorcé, vous vous posez la question du remariage. Vous aimeriez guérir. Vous éprouverez peut-être un jour une attirance pour un homme ou une femme mariée. Et vous ferez peut-être à d'autres le mal qui vous a été fait. Malheureusement, c'est ce qu'on remarque parfois. Alors de toute façon, c'est pas les choses qui vont arriver, de toute façon, vous discutez avec vos amis, vous discutez vous aussi avec vos collègues en prenant le café dans l'entreprise. Vous avez à avoir une position sur ce domaine. Vous avez un témoignage à rendre. Vous êtes concernés. Ceux qui sont coupables d'adultère sont concernés. Alors, les infidèles, les menteurs, les traîtres. Vous avez besoin de savoir ce que Dieu en pense. Vous avez besoin de changer. Dernière fois que j'ai prêché là-dessus, je ne dirais pas, mais à la sortie de l'église, deux personnes qui avaient entendu cette prédication, ce n'est pas tout à fait la même, bien sûr, mais moi, et vous, il y a des choses, c'est une prédication que je n'aime pas faire parce qu'il y a toujours des surprises. Évidemment, et il y a des choses qui se font en secret et la parole de Dieu trouble la conscience des gens et quand les personnes se rendent compte de ce que Dieu en pense, eh bien, elles veulent se repentir, elles veulent changer. Vous avez besoin de changer. Voilà ce qu'on peut dire à ceux qui sont dans ce genre de situation. Vous avez besoin de demander pardon. Et la Bible nous parle d'un nouveau départ qui est possible. Si vous avez pris ce nouveau départ, vous avez peut-être tout simplement envie de remercier Dieu aussi pour le pardon qu'il vous a accordé, pour les changements qu'il a commencé à opérer dans vos vies. Vous êtes concernés. Et même les couples, alors là, il faut vraiment ajouter une bonne dose pour cette dernière catégorie, et même les couples mariés sans histoire, paraît que ça existe. Ces couples mariés sans histoire ont besoin de réfléchir à ce septième commandement. Parce que la Bible nous dit quelque chose qui fait toujours trembler. Elle nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, voilà, à peu près ça. C'est dans une autre situation qu'il a dit ça à l'apôtre Paul. Mais c'est vrai aussi pour tous les aspects de notre vie. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si on se croit à l'abri, eh bien on fait moins attention aux grandes et aux petites choses. Et donc on est plus à risque, on sera plus des personnes à risque. Donc on est concerné par ce commandement. Personne ne peut dire qu'il est à l'abri. Nous devons tous être vigilants sur nous-mêmes d'abord. Alors, comme tous les commandements, j'arrive à ce point-là, il faut parler de la version positive du commandement. Tous les commandements disent « tu ne feras pas, tu ne… » etc. Et derrière « tu ne commettras pas d'adultère », eh bien, il y a autre chose qu'il faut essayer de dégager. Il y a la protection donc du couple et de la société, on l'a dit. Il y a la protection de l'image de Dieu, on l'a dit aussi. Il y a le fait que tout le monde est concerné, on l'a dit. Mais donc la forme du commandement qui est négative nous appelle à repérer l'intention positive. Alors quelle est cette intention positive ? Ben, on va essayer de la formuler ainsi. Tu feras tout pour construire ton couple. Donc derrière ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère, on pourrait mettre en dessous ou à côté, tu feras tout pour construire ton couple. Alors là, c'est un vaste programme. Ça commence avant le mariage. Ah, je ne suis pas marié, je ne peux pas construire mon couple. Mais c'est maintenant qu'on construit son couple, avant le mariage. Et donc avec l'exemple, on construit son couple avant le mariage, d'abord avec l'exemple bon ou mauvais donné par nos parents. On construit son couple avant le mariage avec l'idée que nous faisons du mariage, avec les convictions que la Bible va nous donner là-dessus. Pendant l'adolescence, nous construisons notre couple dans notre façon d'être avec les copains et les copines. Nous construisons notre couple au temps des fréquentations, c'est un vieux mot, mais qui a tout son sens au temps des fiançailles, on va dire. Nous prenons notre temps avant le mariage. Nous respectons les étapes, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça, c'est une… Tu feras tout pour construire ton couple, ça commence avant le mariage, en faisant attention à ça. Et puis, on sait bien que le corps est impatient. Et le corps des futures épouses, le corps des futurs époux. Et le corps est impatient. Tout dans notre société nous pousse à l'impatience. Le corps va souvent plus vite que la réalité de l'amour. Le corps s'engage déjà, il est déjà engagé, alors que les restes de notre être sont encore loin. Les restes de notre être ne sont pas encore en mesure de s'engager. Et pour se marier, il faut du temps, il faut des fiançailles profondes, et il faut laisser le corps à sa place, comme le dernier wagon du train. Attendre le mariage, c'est le préparer. Tu feras tout pour construire ton couple, et ça pleinement, ce commandement positif a pleinement son sens avant le mariage. Et après le mariage, eh bien, tu feras tout pour construire ton couple. Et c'est le vivre avec Dieu, ce couple. C'est l'ouvrir aux autres. Le couple peut se renfermer égoïstement sur lui-même et ça devient quelque chose de tout petit, d'atrophié. L'amour s'atrophie. L'ouvrir aux autres, c'est l'ouvrir aux autres par l'hospitalité, par l'amitié, par le service commun. Tu feras tout pour construire son couple, c'est l'enrichir par des lectures qu'on peut faire. Des lectures sur la communication des époux, sur l'identité de l'homme et de la femme, sur les conflits. Il y a tellement de bons livres à lire et notre bibliothèque en est remplie. Alors vous allez faire une razzia après le culte de tous les bons livres qu'il y a sur les conflits et d'autres choses dans le couple. Nous, un bon livre peut, dans ce domaine peut éclairer et édifier toute une vie. Alors j'en ai un dans lequel je ferai une citation tout à l'heure. C'est Gary Chapman qui a écrit énormément. C'est un pionnier dans le conseil conjugal. Et il est apprécié dans tous les milieux chrétiens, quel que soit au-delà des limites confessionnelles. Et là, il y a des méditations quotidiennes pour le couple où il a rassemblé les 30 ou je ne sais pas combien de livres qu'il a écrits pour faire des méditations pour chaque jour. Ça, c'est précieux, hein, de pouvoir lire, de pouvoir réfléchir seul et ensemble. Et il y a d'autres choses comme ça qui existent. Nous avons besoin de ce genre de choses. Alors, il y a dans le mariage, construire son couple, eh bien, c'est aussi le protéger en barrant la route à certaines tentations. Hein. On doit barrer la route aux amitiés, hein, avec un ami d'enfance qu'on retrouve comme ça par hasard. Hein, voilà. On doit faire attention aux collègues de bureau, hein, qui, c'est souvent au bureau que ça se passe, hein, aux collègues de bureau qui n'attend que la première crise, hein, de votre couple pour vous dire que lui aussi est malheureux, que lui aussi est marié avec une harpie, hein, etc., etc. Hein. Ce n'est pas que dans les séries télé que ça existe. Ça, c'est la vraie réalité. Hein. Et vous avez sûrement des... Et que, voilà, la même personne va dire que, voilà, hein, il est, vous avez sûrement des choses à vivre ensemble, etc. Alors, barrer la route, construire son couple, c'est barrer la route à certaines tentations, hein, comme les films, hein, trop explicites, hein, comme la pornographie, qui est une véritable plaie. Hein, et la pornographie qui nous éloigne de notre conjoint, hein, qui nous fait nous replier sur nous-mêmes en nous faisant miroiter des plaisirs inaccessibles. Donc, tout faire pour construire son couple, en nous disant que les problèmes sont là pour être surmontés, hein, ensemble. Si nous ne sommes pas prêts à apprendre, à écouter, à modifier notre comportement, c'est en vain que nous changerons de partenaire. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Si on n'est pas prêt à changer, c'est en vain qu'on change de partenaire, parce qu'on refera les mêmes erreurs en les amplifiant avec un nouveau partenaire. Ça, on peut être sûr. C'est pareil pour ceux qui changent d'église. Donc, avant d'en arriver à la crise, on peut chercher de l'aide auprès de quelqu'un, hein, qui soit qualifié par sa formation, son expérience, pour être conseillé. Ça peut être un pasteur, pas forcément. Hein. Ça peut être un spécialiste chrétien, mais pas forcément chrétien, hein, qui a appris à discerner ce qui cloche et comment y remédier. Hein. C'est une science, hein, humaine, comme les autres. Hein. Mais si quelqu'un s'investit pour aider les couples à sortir de l'impasse ou à se reconstruire, c'est aussi un don de Dieu, que le praticien soit chrétien ou non. Hein. Vous allez chez le docteur, vous ne demandez pas s'il est chrétien, vous demandez qu'il soit docteur, hein, et qu'il soit à votre écoute. C'est pareil pour ce genre de spécialiste, hein, et qui rend de bons services, de très bons services. Alors, deux conclusions. Tout d'abord, un récit biblique qui nous avertit, qui nous encourage. C'est Jean 8, hein, 2 à 11. Jésus revient de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Il s'assit, se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi, les pharisiens, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Où est l'homme? Ça, on ne sait pas. Ils la firent s'avancer dans la foule, la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, sans la loi, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas? Et en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, hein, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser, hein, lui-même. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, ils répétaient la question. Alors il se relève et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Et après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple seule. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Et combien, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné ?»« Personne. » Seigneur. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus, mais va désormais et désormais ne pêche plus. Et puis seconde conclusion, qui est encourageante aussi, dans ce livre, j'en ai trouvé une au choix, hein, pour vous donner envie de le lire comme d'autres livres de ce genre. Il parle de quatre, c'est au 29 octobre, c'est pas le jour, mais c'est pas l'importance. Il parle de quatre mythes sur le mariage, quatre mythes, hein, quatre mensonges. Hein. Et il donne comme citation Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Alors, il dit, j'aimerais vous exposer, je lis à peu près, hein, j'aimerais vous exposer quatre mensonges qui rongent fréquemment notre motivation à soigner notre mariage. Si j'accorde foi à ces mensonges, j'en serai l'esclave. Mais les murs de ma prison ne sont pas plus épais que du papier. Hein. Ils ne peuvent me retenir que si je les crois trop durs pour passer au travers. Jésus a dit à ses auditeurs que lorsque nous connaissons la vérité, elle nous rend libres. Aussi pouvons-nous nous affranchir de ces mensonges si nous les confrontons avec la vérité de la Bible. Alors il en donne quatre. Premier mensonge, c'est de dire mon état d'esprit et la qualité de ma vie de couple sont déterminés par mon environnement. Voilà, c'est parce que voilà. Et la vérité, dit-il, c'est que Dieu est capable de donner la paix intérieure. Jusque dans les pires situations. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Je peux, dit Jésus, être l'instrument de Dieu. Je peux donc être l'instrument de Dieu pour améliorer mon mariage. Voilà ce que peut dire, ce que nous pouvons dire pour répondre à ce mensonge. Quel que soit l'environnement. Deuxième mensonge. Les gens ne changent jamais. Alors ça, on entend ça comme une petite ritournelle dans notre esprit. Et la vérité, elle est tout autre. Tous les jours, il y a des gens qui changent de manière radicale. Ça, c'est le travail de Dieu qui fait toutes choses nouvelles, 2 Corinthiens 5. Troisième mensonge, quand vous vivez une union difficile, vous n'avez que deux solutions, vous étioler ou partir. Ça, c'est ce qu'on entend dans les séries télé. La vérité, c'est que vous pouvez être un moteur positif de votre union. Quatrième mensonge, il existe des situations désespérées. La vérité, c'est que avec Dieu, il y a des miracles qui peuvent s'accomplir. À nous de regarder, de garder le regard sur lui, plutôt que sur notre situation. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole, qui est parfois dure, parce qu'elle nous reprend, mais qui est aussi encourageante, et qui nous pousse vers l'avant, vers de nouveaux horizons, que nous ne croyons pas pouvoir atteindre aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est une vérité face à l'encontre de tous ces mensonges que nous entendons partout et que nous répétons inconsciemment et auxquels nous croyons bien souvent. Aide-nous à nous accrocher aux vérités de ta parole. Merci parce que tu es un Dieu vivant aujourd'hui et que l'inattendu peut survenir. L'espoir peut venir dans des situations désespérées. Merci parce que tu désires le bien de notre vie, de notre mariage, dans tous ses aspects. Alors transforme-nous, Seigneur. Donne-nous pour nous et pour notre conjoint un amour qui transforme. Amen.